Tournez vers lui, nous avons besoin de lui. Dis-lui que tu as besoin de lui ce matin. Dis-lui que d'après sa présence est imminente pour ton salut. Dis-lui, Seigneur, ta présence est plus qu'indispensable pour ma vie ce matin. Prosternez, adorez le nom du Seigneur. Je vais vivre la différence. Je vais vivre ta grandeur. Je vais vivre ta force. Je vais vivre ton rayonnement. Je vais vivre ton relèvement. Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es tout pour notre existence. Nous nous sommes approchés, non pas d'un homme. Nous ne nous sommes pas approchés d'un morceau de bois. Mais nous nous sommes approchés de celui qui a tout pour nos vies. Nous nous sommes approchés de celui qui peut tout pour nos âmes. Prosternés devant ton trône. Comment, Seigneur, nous sortirons de cette présence sans rien de ta part, ô Dieu? Ce matin, Seigneur, nos regards sont tournés vers toi, nos yeux levés vers toi. Nous attendons de toi un signe de ta puissance. Nous attendons de toi un signe de ta gloire et de ta grâce, ô Dieu, car tu es capable de nous introduire dans des choses puissantes et fortes. Car tu es capable, Seigneur, de nous ouvrir ce qui nous était difficile et impossible hier. Ta présence a tout pour garantir un bonheur, ô Dieu, sans faille à un homme, à une femme. Seigneur, merci. Jésus, merci. Seigneur, merci. C'est auprès de toi, Seigneur, que l'âme trouve, ô Dieu, son vrai plaisir. C'est auprès de toi, Seigneur, que notre âme, ô Dieu, trouve des choses dont elle a besoin pour son épanouissement. Et nous sommes venus encore ce matin nous jeter à tes pieds, prosternés, Seigneur, pour adorer, mais aussi, ô Dieu, recevoir de toi tes affections, recevoir de toi la plénitude de ton amour, recevoir de toi l'abondance de ta bonté, ô Dieu, recevoir de toi la puissance de ta grâce et de ta gloire, ô mon Dieu. Nous avons trouvé grâce de paraître devant toi, que nous ne restions pas, Seigneur, dans cette grâce au même niveau que tout le monde. Mais si ta grâce peut nous amener à la gloire, alors la différence s'établira autour de nous. Seigneur, nous sommes approchés de toi afin que tu nous fasses grâce devant ton trône béni. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je disais que si nous pouvions acclamer le Seigneur, si nous pouvions offrir au Seigneur nos applaudissements, nos acclamations, Jésus en est digne. Alléluia. 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 À Jésus seul soit toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous rasseoir. Shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni et qui nous a encore ouvert ce matin la porte de sa présence. Sommes-nous dans la joie de nous retrouver dans la maison de Dieu? Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui donner un petit sourire? Pas un sourire flatteur, mais un sourire saint, un sourire sincère, un sourire qui vient du fond du cœur. Même si tu as des problèmes, ne souris pas en sourire des problèmes. Même si aujourd'hui nous sommes les six, les Bayer a commencé déjà à mettre la pression, ne souris pas au rythme de ce que les Bayer t'ont envoyé comme SMS ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Qui était là toute la semaine, qui n'a manqué à aucun jour, voilà les violents. Que le Seigneur se souvienne de vous. Et qui a manqué la journée d'hier? Oh, voilà, ils sont nombreux. Que le Seigneur vous bénisse également.
Hier, Dieu nous a fait beaucoup de bien en ces lieux. Il nous a ouvert son bon trésor, le ciel. Non seulement qu'il nous a ouvert son bon trésor, le ciel, pour nous envoyer la pluie physique, mais il nous a aussi envoyé la pluie du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons été richement bénis en ces lieux. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous disons merci à l'homme de Dieu, notre frère, notre pasteur, le frère Maurice Mouéou, et qui a bien voulu à ce que nous puissions porter ce matin cette lourde responsabilité de conclure non seulement ce programme de la semaine spéciale de prière, mais aussi conclure avec ce thème de l'année sur les traces d'Élie. Officiellement, nous pouvons dire c'est aujourd'hui que nous terminons ou nous clôturons, nous concluons avec ce thème puisque nous sommes à notre dernière activité de l'année et dans les jours qui viennent, nous vous ferons savoir les thèmes qui vont devoir nous conduire durant l'année 2023 et c'est formidable. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes au loin, que le Seigneur se souvienne de vous. Et nous croyons que cette connexion avec ces programmes de la Borne Matadi vous donnera sans doute quelque chose de puissant et de fort. Amen. Élie dans le char de feu. Élie dans le char de feu, c'est ce qu'a été notre thème durant cette semaine spéciale de prière. Et ce matin, en guise de conclusion, non seulement de cette semaine spéciale de prière, mais aussi de ce thème sur les traces d'Élie, nous voulons ce matin aborder un sous-thème que nous avons intitulé « La foi d'Élie ». La foi d'Élie. Nous allons faire trois lectures. D'entrée de jeu, nous allons faire trois lectures et les autres passages de la Bible, nous pourrons les lire au fur et à mesure que nous allons évoluer. La première lecture, nous allons la faire dans 2 Rois chapitre 2, les versets 1er, les versets 11e et les versets 12e. 2 Rois chapitre 2, 1, 11 et 12. Ensuite, nous lirons dans Hébreux chapitre 13, les versets 7 et les versets 8. Hébreux chapitre 13, les versets 7 et les versets 8. Et enfin, nous lirons dans 1 Jean chapitre 5, les versets 4 et les versets 5. Et nous lirons du verset 10 au verset 12. Je disais 2 Rois chapitre 2, les versets 1er, les versets 11e, les versets 12e. Hébreux chapitre 13, les versets 7, les versets 8. 1 Jean chapitre 5, les versets 4, les versets 5. Et du verset 10 au verset 12e. Si nous avons trouvé, nous pouvons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Verset 11. Comme il continua à marcher en parlant, voici un char de feu. Et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Hébreux 13, 7 et 8. Hébreux 13, 7 et 8. Il est dit quoi? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et faites quoi? Imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 1 Jean chapitre 5, 4 et 5, 10 à 12. 1 Jean chapitre 5, 4 et 5. 10 à 12. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Lisons tous ensemble la dernière partie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Seigneur, cette vérité, nous la lisons, nous la relisons plusieurs fois. Mais Seigneur, elle semble ne pas pénétrer notre être et nos vies pour que nous puissions conformer nos vies, Seigneur, par rapport à elle. Et pourtant, elle existe. Celui qui a les fils a la vie et celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. Seigneur, on ne changera pas cette vérité. Elle est comme ça et elle restera comme telle. Tout celui qui veut avoir la vie doit faire avec ta parole, car ta parole est la vie, ô Dieu. Ce matin, Seigneur, tu nous approches de cet homme, Élie, afin que nous comprenions, ô Dieu, quelle a été sa façon de vivre sur la terre pour finir comme il a fini, dans un char de feu. Seigneur, ce n'est que la foi qui peut amener un homme à terminer de cette manière. Et nous ne voulons pas, ô Dieu, emprunter un autre chemin qui ne nous amènera nulle part, ô Dieu. Nous voulons garder les chemins de nos pères. Les chemins, Seigneur, de ceux qui nous ont annoncé la bonne nouvelle. Les chemins de ceux qui nous ont prêché la parole de Dieu. Et comment ils ont fini, ô Dieu. Nous sommes prêts à imiter leur foi. Seigneur, aide-nous et tiens-nous la main. Au nom de Jésus, amen. Voulez-vous accueillir la parole de Dieu par des applaudissements? C'est la parole de la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Et la vie est dans sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Acclamons la parole qui sauve, la parole qui délivre, la parole qui affranchit, la parole qui nous relève de nos ruines. La parole de Jésus est digne de nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Marcher sur les traces d'Élie, lorsque nous parlons de sur les traces d'Élie, lorsque nous disons nous devons marcher sur les traces d'Élie, en d'autres termes, nous voulons dire marcher sur les traces d'Élie, c'est marcher sur les traces de la foi d'Élie. C'est tout simplement ça, parce que quand vous considérez la vie d'Élie, vous allez remarquer que depuis le jour où il apparaît devant Akab, jusqu'au jour où il sera enlevé au ciel dans un tourbillon à travers les chars de feu, toute la vie de cet homme n'a été ou ne peut être résumée que par un seul mot, la foi. La foi d'Élie. Sans la foi, Élie ne pouvait pas monter au ciel. Sans la foi, Élie ne pouvait pas fermer le ciel. Sans la foi, Élie ne pouvait pas faire descendre le feu du ciel. Sans la foi, Élie ne pouvait pas nourrir cette veuve à Sarepta. Sans la foi, Élie ne pouvait pas ressusciter son fils. Toute la vie de cet homme se résume à un seul mot, la foi. Et c'est la foi qui l'a fait monter dans un char de feu pour l'amener au ciel. Il n'y aura pas autre chose, frères et sœurs, qui nous fera entrer au ciel. Rien que la foi et seulement la foi. Vous n'avez pas la foi, n'espérez pas au ciel. Vous ne marchez pas par la foi, n'espérez pas un jour rencontrer Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous comprenez ça? Il est impossible de lui être agréable. Et comment celui qui n'est pas agréable va entrer au ciel? Donc, nous avons tous besoin de la foi. Nous avons tous besoin de marcher par la foi. C'est pourquoi l'auteur à l'épître aux Hébreux est très clair là-dessus. Lorsqu'il dit, souvenez-vous de vos conducteurs. Et Élie a été l'un des conducteurs spirituels en Israël. C'était lui le prophète majeur de son époque. Et il avait autour de lui des prophètes mineurs, des petits prophètes, des fils des prophètes. Mais la Bible dit, l'auteur à l'épître aux Hébreux dit, considérez quelle a été la fin de leur vie sur terre. Et tout au long de cette semaine, nous avons parlé de la fin de la vie terrestre d'Élie. C'est de ça qu'il a été question tout au long de cette semaine. Comment Élie a fini et comment tu vas finir, comment je vais finir? Comment Élie a fini sa course sur la terre et comment nous devons nous aussi finir notre course sur la terre? C'est pourquoi cet homme n'est pas allé par quatre chemins. Cet auteur n'est pas allé par quatre chemins. Il dit, imitez leur foi. En d'autres termes, Si nous voulons finir comme Élie, imitons la foi d'Élie. Nous ne pouvons pas finir comme Élie et ne jamais imiter la foi d'Élie. Et lorsque nous parlons d'imiter la foi d'Élie, c'est là que l'apôtre Jean va plus loin pour donner certaines précisions. Il dit que la foi d'Élie que vous devez imiter n'est pas n'importe quelle foi. Ce n'est pas la foi de ceux qui vont dans un match de football. Avant d'entrer au stade, ils disent « match, on a gagné 2-0 ». Et puis, bah, quoi, tu vas gagner 2-0. Ce n'est pas de cette foi-là. Vous comprenez? Parce que là aussi, on peut dire que c'est une sorte de foi. Mais ce n'est pas de cette foi dont il est question ici. L'auteur, l'apôtre Jean, nous fixe ici. Il nous parle de la foi qui triomphe du monde. C'est la foi qu'il faut imiter. La foi qui triomphe du monde. Cette foi qui est capable de vaincre les puissances autour de toi. Cette foi qui est capable de te maintenir dans un monde, nous allons le voir, un monde caractérisé par des troubles, un monde caractérisé par la confusion. C'est pourquoi il a été dit, l'Éternel a distingué son serviteur Élie, Jésus-Christ ne te laissera pas dans la confusion. Alors tu es dans un monde caractérisé par des troubles et des confusions. Pour vaincre ce monde-là, tu as besoin de la foi. La foi qui triomphe du monde. Alléluia. Quelle a été la fin de la vie d'Élie? Élie a fini dans un char de feu qu'il a enlevé pour le ciel. Quel couronnement pour un serviteur de l'Éternel et qui n'aimerait pas finir comme Élie. Nous l'avons chanté en disant que nous aussi, nous voulons monter au ciel comme Élie. Mais cette façon de finir n'est jamais sans un soubassement ou sans ce soubassement appelé la foi. C'est pourquoi l'apôtre Jacques le frère du Seigneur, peut dire dans Jacques chapitre 5, les versets 17 et les versets 18, il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Vous voyez, Élie était un homme de la même nature que nous. Il prit avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Voilà la foi qui triomphe du monde. Et Jacques nous rappelle ici pour nous dire, celui qui a opéré avec cette dimension de la foi n'était pas différent de vous. C'était un homme de la même nature que vous. Ça veut dire que lorsque l'auteur à l'épître aux Hébreux dit « imiter leur foi », il ne nous demande pas quelque chose de si compliqué. Il nous demande quelque chose qu'on ne peut demander qu'aux hommes. Alléluia. Élie était un homme de la même nature que nous. Cela voudrait dire en quelque sorte que pour Dieu, je peux faire des choses extraordinaires, mais avec un homme ordinaire. Je peux faire des choses extraordinaires, mais pas avec un homme extraordinaire, mais avec un homme ordinaire. Lorsque nous disons, Élie était un homme de la même nature que nous, imagine ta nature avec tout ce qu'elle a comme faiblesse. Et Élie était comme ça. Élie pouvait aussi broncher comme l'apôtre le dit, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Élie avait des faiblesses comme toi et moi. Mais malgré ses faiblesses, sa foi pouvait impacter son monde. Sa foi pouvait bouger le monde autour de lui. Donc, lorsqu'on nous demande d'imiter sa foi ici, je vois certaines personnes me regarder, mais se poser la question, moi imiter la foi d'Élie, nakana likolo. Non, on ne te demande pas de fermer le ciel naturel. Toi, tu peux fermer un autre ciel. Tu peux fermer le ciel des maladies, tu peux fermer le ciel des problèmes, tu peux fermer le ciel des troubles dans ta maison, dans ta famille. Toi, tu as opéré sous une autre version. Hier, nous avons parlé de la version améliorée. Il était un homme de la même nature que nous, mais dans chaque génération, il y a d'autres réalités. Les réalités de son temps ne sont pas les réalités d'aujourd'hui. Toi, tu as ton ciel à fermer. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, il était un homme de la même nature que nous. Il a fermé le ciel. Toi aussi, tu peux fermer le ciel. Là, maintenant, tu te dis, mais importe, on a un peu de temps. Bon, il y a des colonnes encore. Élie était un homme de la même nature que nous. Tout ce que tu ressens dans ton corps là, Élie le ressentait aussi. Tout ce que tu vis là, Élie le vivait aussi. mais un homme avec une foi qui triomphe du monde. Tu peux être dans cette nature-là, cette nature faible, cette nature sujet à des déceptions, à des regrets à tout moment, mais opérer dans une autre dimension surnaturelle que personne ne peut comprendre. Tu es un homme ordinaire, mais tu fais des choses extraordinaires. Même ta famille ne comprend pas des choses qu'il fait là. Personne avant lui ne les a faites. Personne. Tu es un homme ordinaire, mais avec un bilan de choses extraordinaires. Sors de l'ordinaire. Vis une vie des choses extraordinaires. Cela est possible avec Dieu. Il était un homme de la même nature que nous. Mais aucune de ses faiblesses humaines ne l'ont empêché de manifester sa foi et triompher du monde de son époque. Alléluia. Et il vivait dans un monde caractérisé par la confusion et les troubles, causés par l'idolâtrie au plus haut niveau de la gouvernance du pays. Si nous considérons un roi chapitre 16, du verset 29 au verset 33, nous disons qu'Élie vivait dans un monde caractérisé par la confusion et les troubles. Et c'est dans ce monde-là qu'il était appelé à triompher. Et toi aussi, tu vis dans un monde caractérisé par des troubles, par toutes sortes de confusions. Et pour cela, tu as besoin de la foi qui triomphe du monde. Il vivait dans un monde caractérisé par la confusion et les troubles causés par l'idolâtrie au plus haut niveau de la gouvernance du pays. 1 Roi 16, 29 à 33 dit ceci. Acab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Acab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Acab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Etbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Acab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter les dieux d'Israël. Voilà par quoi était caractérisé le monde d'Élie. Un monde dominé par les troubles, un monde dominé par la confusion, un monde où régnait l'idolâtrie, l'idolâtrie qui a été validée au plus haut niveau de la gouvernance du pays. C'était ça son monde, mais il était appelé à triompher de ce monde-là. Non pas par un courage humain, non pas par des artifices, mais il devait le faire par une foi. Et c'est cette foi que nous voulons apprendre, vous et moi, ce matin. La foi qui triomphe du monde, notez ce matin, la foi qui triomphe du monde, c'est cette foi qui nous donne de rencontrer le Dieu vivant. La foi qui triomphe du monde, c'est cette foi qui fait de nous les porteurs du témoignage de Dieu. La foi qui triomphe du monde, enfin, c'est cette foi qui nous donne de faire le départ pour le ciel. La foi qui triomphe du monde, je disais, c'est cette foi qui nous donne de rencontrer le Dieu vivant. La rencontre du Dieu vivant. La foi qui triomphe du monde, c'est cette foi qui fait que nous devenions les porteurs du témoignage de Dieu. Et enfin, par la foi qui triomphe du monde, nous terminons par le départ pour le ciel. La rencontre du Dieu vivant. La rencontre du Dieu vivant. Nous avons décrit tout à l'heure les tableaux sombres dans lesquels vivait Israël. Un roi est arrivé au trône, Acab, fils d'Omri. Son père était dans une vie pas très agréable devant Dieu. Et lui, quand il arrive, il enfonce encore les clous. Et la Bible dit comme si cela était peu de choses pour lui. Il va s'allier au mariage avec une princesse sidonienne, Jézabel. Et cette femme qui vient au mariage, elle ne vient pas comme toutes les autres femmes. Qui vient, c'est-à-dire des autres femmes qui vont au mariage, qui vont avec des marmites, avec toutes sortes d'ustensiles de cuisine. Mais elle vient avec 850 prophètes. Elle vient avec 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Il y a une abaloutouté. aina ba kopote ba mabukate ya memi banzambe. Il a amené 850 prophètes, 400 de Baal et 450 d'Astarté. Et non seulement qu'il amène ce genre de prophètes dans le pays, il élimine tous les prophètes de l'Éternel. Il les extermine. Et Élie, dans un premier temps, se retrouve d'abord quelque part. Et Abdias, qui était un proche collaborateur d'Akab, mais qui craignait Dieu, il prendra 100 prophètes de l'Éternel qui va cacher 50 par 50. Regardez les tableaux sombres dans lesquels devait évoluer Élie, où il devait manifester sa foi. Et au verset 17, la Bible dit, au chapitre 17, pardon, le verset 1er, la Bible dit, après avoir décrit ces tableaux sombres au chapitre 16, les cinq derniers versets, 29 même jusqu'au verset 34, la Bible ouvre le chapitre 17 de 1 roi par quelque chose c'est très étonnant que vous connaissez très bien. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab. Il lui dit quoi? L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Imaginons la scène, Akab est là, assis sur son trône, avec des habits royaux. Et à côté de lui, il y a cette meurtrière de Jézabel qui est là, qui ne respire que la mort des prophètes de l'Éternel. Et autour d'elle, il y a ces 850 prophètes qui sont là en train de prophétiser et tout de dire des mensonges. Et il y a cette cour royale qui est là. Mais on voit un homme qui débarque de nulle part. Un homme qui avance, qui s'approche de ce trône, qui s'approche d'Akab et qui lui dit: L'Éternel, le Dieu, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Et il libère un message pour dire, il n'y aura ces années-ci ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. La question que je me suis posée, c'est de savoir, qui es-tu, Élie? Qui es-tu, Élie, pour te tenir devant Akab, roi en fonction? Qui es-tu, Élie, pour te tenir devant Akab, roi en fonction, et Jézabel, sa femme meurtrière à côté de lui, entourée par 850 prophètes de Baal et d'Astarté, et lui parlait de cette manière. Qui est-il Élie? Qui est-il Élie? C'est pourquoi je voudrais dire à un homme ce matin, si tu vois un homme parler devant un autre homme, plus puissant que lui, le défier même, pose-toi la question, qui est-ce qu'il a rencontré avant d'aller là-bas? Si tu vois un homme courageux, si tu vois un homme avec cette audace, avec ce courage, affronter un homme plus fort, plus puissant que lui, ne dites pas rapidement que cet homme ici est fou, cet homme ici, je vais finir avec lui. Fais attention, parce que tu ne sais pas avant de sortir comme ça en public, il a rencontré qui? Il y a des gens qui se présentent en public aujourd'hui, mais posez-vous la question, hier ils ont été en contact avec qui? Il est petit, il n'a pas tes habits royaux à câble. Il ne mange pas sur ta table comme les prophètes de Baal et d'Astarté. La Bible dit, ces prophètes-là mangeaient sur la table de Jézabel. Lui, il se nourrit que de sauterelles et de miel sauvage. Mais, alors qu'il se nourrit de miel et de sauterelles sauvages, il vient de rencontrer le Dieu vivant. Pour paraître de cette manière devant toi, Akab, et te défier de cette manière, ce n'est pas un courage humain. Ça veut dire qu'en cachette, là, il vient de rencontrer quelqu'un. C'est pourquoi Lingala on dit ce que moni moi la source à Tony Sinzungu, c'est que Maman Nazalase. Élie avait Dieu comme soubassement. C'est pourquoi il pouvait paraître devant Akab et l'affronter. Bien aimé, tu ne peux pas affronter ce monde si tu n'as pas encore au départ rencontré le Dieu vivant. Ce monde est appelé à noyer des hommes. Ce monde enterre des hommes. Ce monde écrase tout sur son passage. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas demeurer dans ce monde si tu n'as pas rencontré Dieu. Tu ne peux pas, frères et sœurs, vivre si tu n'as pas rencontré Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent des fois, tu te poses la question, ça veut dire encore quoi? Des phénomènes bizarres, des phénomènes extraordinaires. Nous sommes comme dans un business, nous sommes comme dans un marché. Si tu n'es pas fort, on t'éjecte, on te sort de là. Ce sont les violents qui restent sur les marchés. Ça peut causer des fluctuations, des montées, des descentes, mais il y a quelque chose qui te maintient. Il n'y a que la rencontre du Dieu vivant qui te maintiendra dans ce monde. Il n'y a que la rencontre du Dieu vivant qui te maintiendra sur ces postes-là. Il n'y a que la rencontre du Dieu vivant qui te maintiendra sur ces mariages-là. Il y en a nombreux, elles sont nombreuses qui prient, qui attendent, et même elles prient pour que tu quittes. Il n'y a que la rencontre du Dieu vivant qui te maintiendra là-bas. Il n'y a que la rencontre du Dieu vivant qui gardera ce travail-là. Ce n'est pas l'occultisme, ce n'est pas la magie, ce n'est pas autre chose. C'est seulement la rencontre du Dieu vivant qui te gardera là-bas. Je pose la question, je te pose la question ce matin. Ta foi t'a connecté à qui? Ta foi t'a connecté à quoi? Une foi qui ne t'a pas connecté à Dieu, c'est-à-dire une foi qui ne t'a pas connecté à Jésus-Christ, cette foi-là ne te fera jamais triompher du monde. La foi qui triomphe du monde, c'est cette foi qui nous connecte à Dieu. La foi qui triomphe du monde, c'est cette foi qui nous connecte à Jésus, car Jésus est Dieu. Je répète encore, Jésus-Christ est Dieu. Je reprends encore, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Je redis encore, Jésus-Christ est Dieu. C'est la foi en Jésus-Christ qui te connectera au Père. La Bible dit, nul ne vient au Père que par moi. La foi qui triomphe du monde, c'est la foi qui a pour soubassement Jésus. Et rien que Jésus. Ne croyez pas à ces autres formes de foi. Et aussi, il parle en termes de la foi. Et aussi, il parle en termes de Dieu. Mais nous, on n'est pas au niveau de ces termes qui paraît être flou. Mais nous, nous précisons, notre foi est basée sur la personne de Jésus. Jésus seul, pas autre chose. J'ai parlé avec quelqu'un qui est dans ce monde-là, de cette autre foi-là. Je lui parlais de Jésus en anglais. C'était difficile. Lui, il me parlait de son Dieu-là. Il me dit, hein, Dieu, vous connaissez comment il les appelle. Il me parle aussi de la foi. Je lui dis, non, pas cette foi-là. Comprenez ça maintenant en anglais, dans son Lukabamo. Pas de cette foi-là. C'est la foi-là in Jesus Christ. If you coming in your life. Et puis. Il n'y a que la foi en Jésus, frères et sœurs. Pas la foi en Dieu en désordre. Non. Nous nous précisons. Notre foi est basée sur la personne de Jésus. Et Jésus seul. Et le soubassement de notre connexion avec Dieu, c'est son alliance. Pas autre chose. Le soubassement de notre connexion avec Dieu, c'est son alliance qui nous met en confiance devant n'importe quelle difficulté. Tu t'es connecté à qui? Tu viens à l'église, oui, c'est très bon, nous t'encourageons, mais tu as fait la rencontre de qui? Tu t'es connecté à qui ou à quoi? Quand une nation, notez, quand une nation vit dans la confusion et les troubles, la solution est entre les mains des hommes de l'Alliance avec l'Éternel. Quand une nation vit dans la confusion et les troubles, la solution est entre les mains des hommes de l'Alliance avec l'Éternel. Non seulement quand une nation vit dans les troubles, et même quand une famille est dans les troubles. Quand une famille est dans les troubles, la solution est entre les mains des hommes et les femmes de l'Alliance. Sois un homme avec une alliance vraie. Sois une femme avec une alliance vraie et ton monde saura qui tu es réellement. Ce sont les hommes de l'alliance qui se maintiennent quand ça s'agite de tous côtés. Ce sont les hommes de l'alliance qui restent en place quand ça souffle de partout. Quel est l'état de ton alliance aujourd'hui avec Dieu? Cette alliance est capable de te garder encore, de te sécuriser encore. Cette alliance est capable de te donner, de dominer sur ton monde. Ou bien si ton alliance est déjà fragilisée à ce jour où nous parlons. Notez ceci. C'est lors de la rencontre du Dieu vivant qu'Élie a reçu une directive précise. Parce que, nous l'avons dit, Élie débarque de nulle part. On ne sait pas qui est son père, qui est sa mère, comment les choses ont commencé dans sa vie. Tout ce que nous savons, c'est que la Bible commence par dire « Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab. » Et il est là devant Akab et Jézabel sachant que Jézabel venait de tuer les prophètes de l'Éternel, et si ce qu'il fait là n'est pas poussé par Dieu, il risque lui aussi sa propre vie. Mais il se présente quand même devant Akab. Jézabel est là, les 850 prophètes de Baal et d'Astarté sont là. Et Élie vient et il ouvre sa bouche et il dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Quel courage, Élie! Quel courage pour oser, pour risquer sa vie de cette manière-là. Mais j'aimerais nous dire que ce n'était pas en réalité un courage humain. Ce n'était pas un sursaut d'orgueil comme on peut le penser. Mais Élie venait de rencontrer le Dieu vivant, comme l'avons dit. Il venait de rencontrer le Dieu vivant en secret. Et cette rencontre-là a produit une directive précise. C'est-à-dire, c'est dans cette rencontre que Dieu va lui donner une solution pour la question des troubles et de la confusion qui régnait dans son pays. C'est là, dans le secret, qu'il reçoit une directive précise que nous appelons un rhéma. C'est-à-dire une parole spécifique pour un problème spécifique. C'est là, dans le secret, qu'il reçoit quelque chose qui le soutient en public. Qu'est-ce qui te soutient quand tu sors en public? Qu'est-ce qui te maintient quand tu apparais devant les hommes? Les hommes qui apparaissent et qui réussissent devant les autres, c'est parce qu'en secret, ils viennent de recevoir quelque chose. Ils viennent de recevoir un rhéma qui leur donne du courage et de la détermination dans ce qu'ils veulent faire en présence des autres. Moïse, il était en Égypte. Pendant 40 ans, il a grandi auprès de la fille de Pharaon comme son fils. Et quand il a tué les filles de l'Égyptien, il va fuir. C'est un fuyard qui est dans le pays de Madian. Mais pour rentrer, la Bible dit 40 ans après, alors qu'il était en train de paître les troupeaux de son beau-père, là, dans les buissons ardents, il entend une voix. Une voix qui lui dit, c'est toi qui fera traverser ce peuple désert pour l'introduire dans le pays que je lui ai promis. Il reçoit une directive précise, il tergiverse, il demande tout ce qu'il avait pu demander, mais il part quand même. Et lorsqu'il apparaît devant Pharaon, il fait des démonstrations qui sont les résultats des choses qu'il avait obtenues dans les secrets. Qu'est-ce que tu reçois quand tu es dans les secrets avec Dieu? Si aussi tu es dans les secrets à un moment avec Dieu. Et il y a un moment où tu es seul avec Dieu. C'est là que tu reçois des choses qui te maintiendront devant les hommes, devant le public. Ne sois pas celui qui apparaît du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Tu es toujours là, apparition sur apparition. Va dans les secrets. C'est là que tu recevras la parole, le rhéma qui va te soutenir devant tout le monde. Jésus dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu n'auras pas à vivre seulement avec ce qui est général à tout le monde. Tu as besoin de quelque chose de particulier, quelque chose de précis pour ta vie. Ta vie est en train de patauger. Ta vie n'avance pas. Rien ne s'améliore autour de toi. Tu as besoin d'un rhéma. Quand tu as ça, tu te dis, ça c'est ma parole à moi. Ça c'est ce que Dieu m'a donné qui peut me soutenir pendant les moments sombres, pendant les moments de difficulté. Allez poser la question à Moïse. Il est là devant la mer rouge et les enfants d'Israël sont en train de crier parce que les chars de Pharaon sont derrière eux. Ils ne savent pas quoi faire pour traverser. C'est en ce moment de trouble que Moïse reçoit un rhéma qui vient de Dieu. Dieu lui dit, lève ta verge et frappe la mer et la mer va se séparer. C'est celui qui a le rhéma qui est tranquille. Alors que les autres s'agitent, mais celui qui a le rhéma, il est posé. Il dit, ce mer que vous voyez, il ne sera plus mer, il sera séparé en deux. Je voudrais dire à un homme ce matin, cherche dans l'intimité avec Dieu une parole précise. Cherche dans l'intimité avec Dieu une directive précise. Tu es bloqué dans tes affaires, tu es bloqué dans ce que tu fais. Il te faut un déclenchement de mécanismes par un rhéma venant du ciel. Ça ne se passe pas dans la parole générale de tout le monde. Ça ne se passe pas dans ce qui est commun à tout le monde. Ça se passe par quelque chose de précis que Dieu seul peut te donner. Moïse répond au peuple en disant, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour.
car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Qui est cet homme qui peut parler de cette manière-là s'il n'a pas une base arrière, un background assez fourni, assez assuré? Tu es devenue pleureuse, pleureuse, pleureuse dans ta vie, dans ton mariage, dans tes affaires. C'est parce que tu n'as pas encore reçu les rhéma. Celui qui a les rhéma, même quand tout s'agite autour de lui, il est posé. Il est tranquille. David, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence, c'est ce que Moïse a dit. Au milieu des troubles causés par le géant Goliath, David reçoit un rhéma de Dieu. Et il dit à Saoul dans 1 Samuel 17, verset 32. Il dit, David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Tout le pays est dans le trouble parce que Goliath s'est levé. Goliath avance matin et soir. Les troubles sont là, la confusion est là. Saoul, le roi qui devait engager le combat, il ne peut plus. Et dans ces troubles-là, qu'un jeune homme vient, regardez une chose. Les rhéma ne regardent pas à notre taille pour venir. Les rhéma ne regardent pas à ce que nous étions hier. Il n'était jamais militaire, mais c'est lui qui détenait les rhéma. Je voudrais te dire, tu es le plus petit de ta famille comme Gédéon. Tu es le moindre de ta famille, même ta famille est la plus petite dans votre tribu. Mais le rhéma te trouvera, te localisera. Le rhéma viendra là où tu es parce que c'est toi qui débloqueras toute la famille. Ça ne dépend pas de ce que je suis au dehors, ça ne dépend pas des galons, ça ne dépend pas des titres que je peux avoir. Tu peux avoir le rhéma qui va sauver ton entreprise. Tu peux avoir le rhéma qui va délivrer ce pays. Tu peux avoir le rhéma qui va sortir cette province de troubles. Tu peux avoir ce rhéma-là. David dit que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et au verset 46, il dit, et là il parle maintenant à Goliath, « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Devant sa stérilité, notez, devant sa stérilité, Anne a reçu un rhéma de Dieu par la bouche du souverain sacrificateur Élie. Et là, nous sommes dans 1 Samuel 1, 17 et 18. Alors qu'elle est venue au temple chercher Dieu, elle n'avait plus de mots à cause de l'intensité de sa souffrance. Les serviteurs, les souverains sacrificateurs, les pasteurs de cette église la regardent et disent « Jusqu'à quand seras-tu dans cet état d'ivresse? Fais passer ton vin, sors d'ici et il la chasse même. » Mais elle revient pour dire « Non, mon Seigneur, je ne suis pas une femme pervertie comme vous le considérez là, mais je suis seulement une femme qui souffre en son cœur. C'est l'excès de ma douleur qui m'a fait parler jusqu'ici. » Élie comprend qu'il s'était trompé. Et la Bible dit, Élie reprit la parole et dit, au milieu des troubles de Anne, elle est troublée parce qu'elle n'a pas d'enfant, elle est troublée parce qu'elle est mortifiée, elle est troublée parce qu'elle ne sait plus manger. La Bible dit, son mari même lui a dit, « Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 enfants ?» Mais malgré toutes ces belles paroles, les troubles se sont maintenus et elle ne pouvait jamais être en paix. Mais quand l'homme de Dieu ouvre sa bouche, il était, c'est vrai, un serviteur négligent et tout, un vieillard dépassé par des événements et tout, et il ne contrôle pas bien sa famille. Mais Dieu est passé quand même par sa bouche pour libérer un rhéma pour cette femme. La Bible dit, Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, là c'est Anne maintenant qui parle, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux et cette femme s'en alla. » La Bible ajoute pour dire, « Elle mangea et son visage ne fit plus. » Quand le rhéma vient, le visage change. La chose n'est pas encore arrivée, mais je vis déjà l'atmosphère de la chose. Je n'ai pas encore cette promotion, je n'ai pas encore cette maternité, mais je vis comme si j'ai déjà des jumeaux, comme si j'ai déjà des jumelles. Quand le rhéma vient, les conditions autour de toi changent. C'est que les paroles de l'homme, de ton mari, n'ont pas pu te donner, le rhéma te donne. Parce que les paroles de l'homme n'ont pas pu changer son visage, mais le rhéma, quand il vient, il a tellement une puissance capable de changer ton état et te donner ce qui est bon. Au milieu de tes troubles, j'ai pris ce matin que l'Éternel te donne une parole qui va te mettre en confiance. au point de changer ton visage. Pour Élie, je suis un inconnu en Israël, mais le rhéma de Dieu me révélera au monde. Je suis un inconnu, c'est vrai. Tu peux être un inconnu ce matin, mais tu auras quelque chose, une parole qui va te faire connaître au monde. La confiance obtenue de Dieu à travers son rhéma nous donne d'ouvrir la bouche devant même les situations intenables, devant des situations difficiles. La confiance obtenue de Dieu à travers son rhéma nous donne d'ouvrir la bouche devant même des situations intenables. Je dois courir. Notez, c'était un homme plein de confiance qui s'est présenté ce jour-là devant Acab qui lui dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ce qui t'a manqué jusqu'ici, c'est que ta foi ne t'a jamais donné une parole qui te met en confiance. C'est pourquoi tu es perturbé toutes les fois qu'il y a quelque chose qui surgit de façon brutale dans ta vie. Tu as besoin d'un rhéma. Et le rhéma s'obtient même pendant que je suis en train de parler. Tu peux recevoir ce qui est à toi. Dans la multitude des paroles qui sortent de ma bouche, Dieu peut passer par l'une d'elles pour que tu la saisisses et que tu dis, ça c'est pour moi. C'est le rhéma que Dieu m'a donné pour ce jour. Et quand tu as cette parole, partout où tu iras, tu diras, Dieu m'a dit. Et quand on a un rhéma, on devient têtu. On peut venir pour te dire, ce n'est pas ça. Mais tu dis, ça, c'est ce que Dieu m'a dit, c'est ça ou rien. Le rhéma de Dieu te rendra têtu, tête dure. Amen. Voyons rapidement les porteurs du témoignage de Dieu. Les porteurs du témoignage de Dieu. La foi qui triomphe du monde, non seulement qu'elle nous donne de faire la rencontre du Dieu vivant, mais elle fait de nous également des porteurs du témoignage de Dieu. Nous l'avons lu dans 1 Jean chapitre 5, les versets 10, un texte merveilleux. La Bible dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ses témoignages en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Ce témoignage, en d'autres termes, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, si vous lisez l'évangile selon Jean, la Bible dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et tout ce qui existe a été fait par elle, et rien de ce qui existe a été fait sans elle. Et puis, un peu plus bas, la Bible dit, cette parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Donc, le témoignage dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. Et dans Ésaïe 55, le verset 10 et le verset 11, la Bible dit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » En d'autres termes, nous voulons dire ici, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous devenons des porteurs de la volonté de Dieu et nous devenons les porteurs des desseins de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque nous lisons dans le livre d'Exode, Dieu dit à Moïse, tu feras un coffre et tout ça, l'arche de l'alliance et tout. Mais il lui dit, quand nous lisons, il lui donne même des mesures. C'est quelque chose que vous et moi, nous pouvons fabriquer à tout moment. On peut dire à un menuisier, fais-nous une caisse et tout ça de telle dimension en bois et tout. Mais maintenant, dès lors que la caisse est fabriquée, Dieu dit à Moïse, pour donner de la valeur à cette caisse, tu prendras les deux tables de témoignages. Vous comprenez? Les deux tables de témoignages, là où c'était écrit la loi de Dieu, tu les mettras où? À l'intérieur. Dès lors que la parole de Dieu est dans l'arche, l'arche devient quelque chose de très dangereux. Au point que lorsque Uzza essaye de toucher à l'arche, il meurt directement. Ça veut dire que maintenant là, nous sommes dans la nouvelle dispensation où on n'a plus besoin de l'arche physique. L'arche c'est maintenant toi. C'est-à-dire tu as en toi la parole de Dieu et tu deviens intouchable. Ah non, tu n'as pas compris. C'est-à-dire tu deviens le porteur du témoignage. Quiconque devient le porteur de témoignage, il devient intouchable. Il devient brûlant. Si vous osez le toucher, vous mourrez comme Uzza. C'est pourquoi vous allez voir quelque chose de très particulier. Le jour où les Philistins ont envahi Israël dans 1 Samuel, je crois, 2, lorsque, le chapitre 4, je crois, lorsque les Philistins ont attaqué Israël à l'époque d'Élie les sacrificateurs, ils ont fait quoi? Ils ont pris l'arche. L'arche est partie seule dans le camp des Philistins. Mais l'arche est partie seule, mais là où l'arche est partie, elle a fait des dégâts. Là où l'arche est partie, l'arche a troublé des vies. Je voudrais te dire ce matin, les gens qui t'ont bloqué, qui ont pris, c'est pas, ils ont pris quelque chose qui t'appartient, ils se décideront eux-mêmes. Ils se désengageront eux-mêmes pour dire, tu es devenu le porteur de du témoignage de Dieu. Partout où tu iras, le témoignage qui est en toi agira. Tu seras conscient ou inconscient, mais la parole qui est en toi va se déclencher et va libérer des situations. Tu n'auras pas forcément à prier, tu n'auras pas forcément à faire des déclarations, mais ce que tu as emmagasiné, ce que tu as emmagasiné du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, depuis que tu es dans la foi, peut-être ça fait 10 ans, peut-être ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, tu as tellement stocké de l'énergie que quelque part un jour, cette parole, tu n'auras pas ouvert la bouche, mais la parole du témoignage qui est en toi parlera. Pourquoi? Pourquoi l'arche est rentrée? Et pourquoi l'arche a fait des dégâts là-bas? L'arche est allée, l'erreur que ces gens ont commise, parce que l'arche est allée à Dagon. Premier jour, Dagon est allé à Katani. Parce que Dagon est allé à Katani deuxième jour. Pourquoi? Parce que dans l'arche, il y avait une disposition des Écritures qui dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Une disposition à l'intérieur qui dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oh, Dagon est devant moi. Le sort de Dagon, c'est quoi? Kingo go katan. Maboko go katan. J'ai pris ma kingo katan. Maboko go katan. Que tous ceux qui ont des dieux autour de toi, qu'ils rencontrent les témoignages qui est en toi. Tu es devenu le porteur du témoignage. On ne te touchera pas. On ne prendra pas ce qui est à toi. La parole que tu as emmagasinée parlera. La parole que tu as emmagasinée criera. Élie dit au Mont Carmel, Éternel, que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses sur ta parole. Or, devant lui, il y a des prophètes de Baal, il y a des prophètes d'Astarté. Le sort, c'est quoi? C'est que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il faut faire quoi? Il faut bakingwe katanakuna na Torah. Il faut bakoufa. J'ai pris que les Baal qui sont dans ton quartier, qu'ils finissent. J'ai pris que les Astartés qui sont dans ton travail, qu'ils finissent comme leurs ancêtres. Qu'ils finissent comme leurs ancêtres. Ils termineront l'un après l'autre. Ils étaient 850. Dieu a donné de la force à Élie pour les exterminer tous en un seul jour. Ils ne mettront pas 2 jours. Ils ne mettront pas 1 mois. Ils ne mettront pas 1 année pour terminer. Ils comprendront que tu es un porteur du témoignage. Tu es un porteur du témoignage. Ils comprendront que tu n'es pas un homme à jouer avec. Oh, qui est celui-là qui joue avec toi? Il y aura des situations qui arriveront dans ta vie qui n'attendront pas que tu pries ou que tu médites d'abord la Bible pour les régler. Mais la parole de Dieu qui habite en toi réagira automatiquement. Cette parole réagira automatiquement parce que tu es devenu porteur du témoignage. La Bible dit, au commencement était la parole a été faite chair. Elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce. Que Jésus qui habite en toi plein de grâce, plein de puissance, plein de force, afin que tu avances. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 3, la Bible dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Ça c'est vous. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Notez, Une lettre a toujours été un moyen fiable pour passer une information susceptible d'attirer l'attention des rois, tout comme celle des simples citoyens du royaume. Comme lettre écrite du Christ, la vie d'un enfant de Dieu devient un moyen que Christ va utiliser pour informer ta famille, pour informer ton quartier, pour interpeller les gens qui sont autour de toi, enseigner le monde que tu es un porteur de la puissance de Dieu. Tu es une lettre écrite pour que les œuvres de Christ se manifestent par toi. Tu es manifestement une lettre écrite de Christ. Il y a un temps où on agit sans que personne ne nous voie, sans que personne ne sache. Il y a un temps où nous pouvons parler en ouvrant la Bible. Il y a un temps aussi où notre vie va parler. Parce que nous sommes une lettre écrite de Christ. Le monde sera informé de ce que nous sommes. Alléluia. Oh, je dois terminer. Le départ pour le ciel. Le départ pour le ciel. Notez, la foi qui triomphe du monde, qui a commencé par la rencontre du Dieu vivant et qui a fait de nous des porteurs du témoignage de Dieu, doit nous conduire au ciel. La foi qui triomphe du monde, qui a commencé par la rencontre du Dieu vivant et qui a fait de nous des porteurs du témoignage de Dieu, doit nous conduire au ciel. Soulignez ça très bien. Cette foi-là doit te conduire au ciel. Ce n'est pas une foi qui doit te laisser à mi-chemin. La foi qui triomphe du monde, qui a commencé par la rencontre du Dieu vivant et qui a fait de nous des porteurs du témoignage de Dieu, doit nous conduire au ciel. Notez, c'est une chose que de rencontrer le Dieu vivant et d'être porteur du témoignage de Dieu pour manifester sa puissance au monde, mais ça n'est une autre d'être enlevé pour le ciel. C'est une chose que de rencontrer le Dieu vivant et d'être porteur du témoignage de Dieu pour manifester sa puissance au monde. Mais c'en est une autre d'être enlevé pour le ciel. Notez, Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus que nous connaissons, celui qui l'avait livré, Judas Iscariote avait lui aussi fait la rencontre du Dieu vivant à la personne de Jésus-Christ, oui ou non? Donc, il avait la foi, vrai ou faux? Judas Iscariote avait lui aussi fait la rencontre du Dieu vivant à la personne de Jésus-Christ. Il était lui aussi porteur du témoignage de Christ et a manifesté la puissance de Dieu en chassant les démons et en guérissant les malades, oui ou non? Parce qu'il était aussi envoyé comme les autres disciples. Il avait aussi fait des miracles et il avait chassé des démons. Donc, non seulement qu'il avait la foi, il avait rencontré le Dieu vivant, c'est-à-dire la personne de Jésus lui-même, mais aussi il était porteur du témoignage de Christ là où il était dans son monde. Je disais, Judas Iscariote avait lui aussi fait la rencontre du Dieu vivant à la personne de Jésus-Christ. Il était lui aussi porteur du témoignage de Christ et a manifesté la puissance de Dieu en chassant les démons et en guérissant les malades. Mais il n'est jamais monté au ciel. Mais il n'est jamais monté au ciel. Pourquoi? Je donne cette raison. Pourquoi? Sa manière de chercher l'argent pour vivre a été un piège auquel il n'a jamais survécu. Sa manière de chercher l'argent pour vivre a été un piège auquel il n'a jamais survécu. Frères et sœurs, nous aimons tous l'argent. Oui, nous avons tous besoin d'argent. Mais il y a des gens qui cherchent l'argent de façon incroyable. Nous sommes dans un monde où on est prêt à piétiner les intérêts des autres parce que j'ai besoin de cette somme-là, parce que j'ai besoin de ce montant-là, parce que j'ai besoin de cette affaire-là. Et cela a été un piège auquel Judas n'a jamais survécu. Et pourtant, la foi qu'il avait fait rencontrer les dieux vivants, il l'avait avec lui. Il a aussi été un porteur de la puissance de Dieu, oui ou non? Il était porteur de la puissance de Dieu. Il a guéri les malades. Il a chassé les démons. Mais un piège auquel il n'avait jamais survécu, c'est qu'il était trop attaché à l'argent. Quelles sont nos motivations lorsque nous cherchons l'argent? Pour 30 pièces, il était prêt à sacrifier la vie de son sauveur. Pour 30 pièces d'argent, il était prêt à sacrifier la foi, le Dieu vivant qu'il avait rencontré, et fouler aux pieds le témoignage qui était en lui. À cause de l'argent. À cause de l'argent ici, frères et sœurs, beaucoup n'iront pas au ciel parce que leur amour, leur intérêt pour l'argent est contraire à la volonté de Dieu. Notre façon de chercher l'argent, frères et sœurs, inquiète aujourd'hui. Nous sommes pleins dans les églises, nous sommes pleins dans les assemblées, mais quand nous sortons, quand nous sommes lundi au travail, quand nous sommes dans les business, qu'est-ce que nous ne faisons pas pour maximiser les bénéfices? Qu'est-ce que nous ne faisons pas pour rentrer avec un petit sachet le soir à la maison? Nous n'irons pas en enfer parce que nous avons pris la femme d'autrui, parce que nous avons, je ne sais pas moi, volé quelque part, mais c'est parce que nos motivations, nos méthodes pour avoir l'argent n'ont pas plu au Seigneur. Les méthodes-là n'ont pas plu au Seigneur, c'est pourquoi beaucoup iront en enfer. Notez ceci. Juda avait lui aussi entendu du maître la promesse suivante. Il avait lui aussi entendu du maître la promesse suivante dans Jean chapitre 14, 1 à 3. Jean chapitre 14, 1 à 3. Nous allons terminer par là. Il avait lui aussi entendu du maître la promesse suivante. Jean chapitre 14, du premier verset au troisième verset. La Bible dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Jésus est en train de préparer ses disciples parce que bientôt, très bientôt, il doit mourir et monter au ciel, ressusciter, monter au ciel. Et il dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez. Quand il parle comme ça, Juda est dans le groupe là. Maintenant, écoutez la suite, ce qui m'a fait très mal. La suite dit quoi? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais, je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je ferai quoi? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça veut dire que dans cette parole, Juda avait aussi sa place que le maître était allé préparer. Mais Juda n'est jamais allé là-bas pour occuper cette place. Le jour où le maître disait ces choses, Juda était là, il écoutait aussi. Mais le cœur attaché à l'argent, il ne pouvait pas saisir la parole de Dieu. Combien n'ont-ils pas le cœur tourné à l'argent ici? Et même quand on prêche, ça entre ici, ça sort là-bas. Frères et sœurs, faisons très attention sur notre façon de chercher l'argent. Ça conduira plusieurs personnes à perdre leur place auprès de Jésus. Jésus a dit à tout le monde, je m'en vais vous préparer une place. En d'autres termes, il était en train d'assurer à ces gens-là, comme Élie était monté au ciel, vous aussi, vous ne m'aurez pas suivi sur la terre pour rien. Vous ne terminerez pas sur la terre, vous monterez vous aussi au ciel. C'est pourquoi je vous ai précédé pour aller préparer une place pour vous. Mais attendez encore, faites ce que je vous ai dit de faire. Mais Juda dans sa tête, c'était l'argent. L'argent, comment je vais faire pour trouver cet argent? Comment je vais faire pour gagner? Comment je vais faire pour nourrir ma famille? Comment je vais faire? Il est allé plus loin jusqu'à vendre le Dieu qui lui a promis que je m'en vais te préparer une place. Pourquoi, frères et sœurs, comportons-nous des fois de cette manière-là? Et pourtant, nous entendons la parole de Dieu. Nous entendons la parole de Dieu. La foi en Christ, frères et sœurs, nous garantit le départ pour le ciel, mais à une seule condition. C'est si nous persévérons jusqu'à la fin. Juda avait rencontré le Dieu vivant. Juda était un porteur du témoignage du Dieu vivant, oui ou non? Mais Juda n'est jamais monté au ciel. Ça veut dire, comme le dit l'auteur à l'épître aux Hébreux, considérez la fin de la vie de ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu et imitez leur foi. Qui peut imiter la foi de Juda? Qui peut imiter la foi d'Akab? Et pourtant, hier, ils ont rencontré le Dieu vivant. Juda a perdu lui-même de façon délibérée sa place dans le même ministère que les autres apôtres de Jésus, jusqu'à bloquer son propre départ pour le ciel. Ce qui va bloquer ton propre départ pour le ciel, ce n'est pas un ange que Dieu enverra pour dire Yakotate, Yakota. Tu te bloques toi-même la porte du ciel par ton comportement. Tu te bloques toi-même la porte du ciel par tes méthodes, par tes moyens pour chercher l'argent. Tu es prêt à tout pourvu que tu te retrouves. Juda a perdu lui-même de façon délibérée sa place dans le même ministère que les autres apôtres. Écoutez ce que Pierre dit qui m'a fait très mal dans Actes chapitre 1er, du 15e au 18e verset. Pierre dit quelque chose de fort à propos de Juda. Actes 1er, 15 à 18. La Bible dit, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Juda, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Il dit ceci ensuite. Il dit quoi ensuite? Il était comment? Compté parmi nous et il avait part au même ministère. Verset 18. Cet homme, c'est là où ça m'a fait très mal. Et pourtant au début il dit, il parle des autres, il dit, la Bible dit, en ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Et maintenant, celui qui était frère hier, voilà comment on l'appelle, cet homme. Cet homme. C'est pourquoi le dimanche passé, le pasteur a dit, la page de Géasi peut être tournée comme si de rien n'était. Celui qui est frère assis à côté de toi, demain il peut devenir un simple homme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas persévéré jusqu'à la fin. Parce qu'il n'a pas gardé la foi. La foi qui triomphe du monde ne suffit pas seulement à faire descendre le feu du ciel. Cette foi-là ne suffit pas seulement à fermer le ciel. Mais si cette foi-là ne t'enlève pas pour t'amener au ciel, pendant que tu es encore sur la terre, tu peux devenir un simple homme. Combien n'avait-il pas part au ministère avec nous, auprès de Maurice Moué autour de nous? Mais aujourd'hui, nous pouvons les voir au loin comme des simples hommes. Pourquoi? Parce que la persévérance a posé un sérieux problème. Pourquoi tu vas finir comme Juda? Pourquoi tu vas finir comme Akab? Ne veux-tu pas dire à Dieu, aide-moi Seigneur, car je ne suis pas le premier à t'avoir rencontré et manifesté ta puissance au monde. Que je ne connaisse pas la fin de Juda, que je ne connaisse pas la fin d'Akab. Baissons nos têtes dans la prière. La foi qui triomphe du monde, c'est cette foi qui te prend déjà par la rencontre du Dieu vivant et qui t'amène au ciel avec Dieu. Es-tu en règle avec Dieu? Es-tu en ordre avec Dieu? Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Lève la main là où tu es. Lève les doigts là où tu es. Tu te dis, j'étais moi aussi dans l'église ou je suis moi aussi dans l'église. Je parle de Dieu, je cite le nom de Dieu. Mais je ne suis pas en alliance avec lui. Ou bien tu t'es dit ce matin, j'ai commencé par la foi. J'ai connu moi aussi la foi qui triomphe du monde. J'ai rencontré le Dieu vivant. J'ai été porteur du témoignage. Tu as fait des exploits, c'est vrai. Mais tu t'es dit ce matin, je suis en danger. Je suis menacé, je suis en danger. Ma façon de chercher l'argent n'est plus normale. Ma façon de vivre n'est plus normale. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Il y a un piège qui te guette. Il y a un piège qui peut te faire manquer le ciel. Il n'y a aucune honte en cela, frères et sœurs. C'est une histoire entre toi et ton Dieu. Partout où vous êtes, levez-vous s'il vous plaît. Nous n'avons pas assez de temps. Nous devons terminer. Il est déjà 9h juste. Nous devions déjà finir. Levez-vous là où vous êtes s'il vous plaît. Vous êtes prêt à tout. Vous êtes prêt à tout. Juste pour satisfaire un besoin éphémère. Mais vous oubliez qu'il y a un ciel à gagner à côté de toi. Il y a un départ pour le ciel que Jésus te réserve par la même foi. La même foi qui t'a donné d'être le porteur du témoignage, de faire descendre le feu du ciel. Ça ne sera pas une autre dose de la foi. Ça ne sera pas autre chose. Mais c'est la même foi qui va te prendre pour t'enlever et t'amener au ciel. Pourquoi ne veux-tu pas trembler avec les autres qui se sont déjà mis debout? Pourquoi ne veux-tu pas dire, Seigneur, j'ai peur. Le monde dans lequel je vis est tellement pesant. Il y a une pesanteur de sorte que si je ne fais pas trop attention, demain ou après-demain, je risquerai de ne plus devenir enfant de Dieu. Je risquerai de rater le ciel. Il était là au milieu des autres enfants de Dieu, au milieu des autres serviteurs. Lui aussi, il était appelé autrefois frère Judas. Frère Judas, Pierre pouvait l'appeler frère Judas, mais le même Pierre, demain après demain, il parlait de Judas comme d'un simple homme. Cet homme, ça veut dire la foi qui t'a fait rencontrer Jésus, c'est vrai, c'est une foi qui garantit le ciel, mais il faut persévérer jusqu'à la fin. Où es-tu tombé? Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi, tel que nous dit la parole de Dieu. Tu es là, frère, sœur, tu sens que ta vie est menacée. Supplie la grâce de Dieu. Seigneur, je te recommande ces hommes et les femmes. Oui, chacun s'est reconnu, et même ceux qui sont assis. Plusieurs se sont reconnus d'une manière ou d'une autre, car les motivations, Seigneur, qui nous poussent à satisfaire nos besoins, à chercher l'argent, ne nous permettent pas, Seigneur, d'accéder au ciel. Et pourtant, oh Dieu, tu as prévu que la même foi qui triomphe du monde nous donne également d'effectuer le départ pour le ciel. Que tu pardonnes à ces hommes et les femmes, que ceux qui ont besoin, oh Dieu, de donner leur vie à toi, pardonne leurs péchés, accepte-les dans ton royaume, oh Dieu, et fais d'eux tes enfants. Désormais, Seigneur, qu'ils ne soient plus esclaves du monde, qu'ils ne soient plus esclaves du péché, mais qu'ils rencontrent le Dieu d'amour qui pardonne tout. Toute l'Église, si nous pouvons nous lever, la foi qui triomphe du monde, frères et sœurs, c'est l'affaire de nous tous. Tu as rencontré le Dieu vivant. Et peut-être c'est le témoignage qui fait encore défaut jusque-là. Qu'est-ce que le monde voit jusqu'à présent quand il regarde ta vie? La Bible déclare, le monde attend de nous le signe de sa gloire. Nous sommes les porteurs du témoignage de Dieu. Jusque-là, il y a encore des situations dans ta vie qui ne témoignent pas Dieu publiquement. Tu vas prier pour dire à Dieu que je sois un véritable porteur, une véritable porteuse du témoignage de Dieu dans ce monde, dans ma famille, dans mon entreprise. Lorsque les gens me verront, qu'ils voient Dieu en action, en l'œuvre dans ma vie. Élève ta voix, parle à Dieu. L'arche a fait des dégâts dans le camp des Philistins. Tu es devenu l'arche de Dieu. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est dans ce corps qu'habite la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est là te dit, tu seras la tête et non la queue. La parole de Dieu qui est en toi te dit ceci, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La parole de Dieu qui est en toi te rappelle encore ce matin que si l'on forme des projets, cela ne viendra pas de moi. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Sois le témoin de la parole de Dieu, sois le porteur du témoignage de Dieu partout où tu es, partout où tu es. Seigneur, merci. Sur les traces d'Élie, c'est marcher sur les traces de la foi qui triomphe du monde. Élie a fini haut et nous ne voulons pas finir bas. Le Dieu d'Élie a distingué son serviteur. Jésus-Christ, mon Dieu, ne me laissera pas dans la confusion. Seigneur, bénis ces hommes et les femmes. Bénis ces peuples, oh Dieu, à qui tu as parlé ce matin. Qui est en danger, Seigneur, parce que sa façon, oh Dieu, de vivre ou de chercher les intérêts de ce monde, Seigneur, devienne un piège auquel il aura du mal à survivre. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Moi-même, j'ai besoin de toi, je tremble et j'ai besoin de toi. Que la foi que j'ai professée en public, que cette foi-là ne me laisse pas sur la terre. Je t'en supplie, oh Dieu. Tu bénis ces dîmes, ces offrandes, ces dons volontaires et tout ce que nous apportons, Seigneur, comme dons et libéralité. Tu les reçois de ces peuples qui t'aiment, oh Dieu. Tu les sanctifies et tu donnes sagesse et intelligence à ceux qui gèrent. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Si nous avions aimé, on acclame très fort.